Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 17 décembre 2011. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai et à 17h Éphémère, c'est l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le radio achat de Noël que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Tu te plonges dedans, tu es happé vraiment dans l'illustration, tu peux passer un quart d'heure par image. Voilà, c'est vraiment impressionnant, oui. C'est...
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, merci d'être à notre écoute, merci d'être là. C'est la 299e du Supplément Week-end. Nous sommes le 17 décembre 2011, on va faire un break, il y aura pas d'émission ni de 24 ni de 31, quoique. Peut-être qu'il y aura un mix, peut-être qu'il y aura une petite curiosité, un petit truc complètement à part. Je devrais pouvoir vous bricoler ça, je pense que ça devrait faire plaisir. Non, ce sera le 25, non, le 24, pardon.
Le 24, ouais.
24 et le 31, voilà. Ceci dit, pour une fois, je vous ai menti dans un peu. D'abord, Ultimatum n'est pas là, pour différentes raisons, principalement personnelles. Et accessoirement, donc, j'ai un petit peu menti en intro quand j'ai rédigé le texte de notre speakerine en disant que ce sera le Radio Achat. C'est vrai que habituellement, tous les ans, on fait un peu notre sélection, ce qu'on vous recommande pour acheter au dernier moment.
Ah ouais, c'est vrai ça. C'est vrai.
Et tout ça. Mais voilà, on a eu une actualité qui était absolument énorme, doublée par le fait que c'était les 30 ans de la radio, que donc on avait vraiment beaucoup de choses à faire, que en plus professionnellement aussi on était un petit peu saturés. Et on n'a pas fait toute cette sélection. Donc, je me suis retrouvé là ce matin et je me suis dit, bon, voyons. C'est la dernière fois qu'on peut le faire, enfin du moins, sauf surprise en mai prochain. Or, nous avons un président de la République qui, certes, est bling-bling, on peut dire ce que l'on veut de son bilan économique, de son bilan politique et tout le reste, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il était très proche des artistes principalement du cinéma, des séries télé, ne pas oublier hein, qu'il a dit qu'il avait beaucoup aimé la série des Borgia. En interview politique c'est toujours classe hein, de se remettre donc à une papauté particulièrement décriée à l'époque. Donc pour une fois je me suis dit, eh ben c'est pas nous qui allons faire ce top 5, cette sélection de ce qui peut vous intéresser, mais je me suis remis à une sélection qui a été faite par l'Elysée et donc ils ont fait eux-mêmes une sélection. Sur cette sélection, nous en avons choisi 5. Et comment dire, qui dit sélection dit top, et qui dit top dit
le top 5. Numéro 5.
Des films, musique, livres appréciés à l'Elysée, et ben en cinquième position, The Change Up, Échange Standard, qui est un film de David Dobkin, qui donc semble être apprécié à l'Elysée, et en tout cas qu'on a mis dans cette position sur leur sélection.
Numéro 4.
Le quatrième, en quatrième position, on a là aussi un film, Arthur Christmas, alias Mission Noël, de Sarah Smith. Un film d'animation, là aussi, qui semblait très apprécié par l'Elysée.
Numéro 3.
En troisième position, encore un film, en tout cas que l'on a mis à partir de cette sélection. Il s'agit de Tower Heist, le casse de Central Park de Brent Ratner.
Ah, mais ça, c'est un tout récent, ça. Hein,
c'est un tout récent. Oui, c'est une sélection qu'ils ont faite en novembre-décembre. Voilà.
Ouais, donc mais c'est... le film est sorti il y a pas longtemps. Il est sorti cette année. Hein.
Oui, non, mais c'est depuis 2 mois. Voilà, c'est la sélection de ce que l'Elysée apprécie beaucoup ces 2 derniers mois. Et ensuite,
numéro 2.
À mon avis, ça c'est un coffret cadeau que l'on peut se faire, même si c'est par contre un petit peu plus vieux. Il s'agit des Greatest Hits des Beach Boys, 20 Good Vibrations, remasterisé et réenregistré, si je me trompe. Hein.
Ouais, non, mais c'est sorti cette année aussi.
Bah oui, tout à fait. Hein. Je veux dire que c'est absolument récent. Et en numéro 1, à mon avis, c'est un cadeau, mais ça c'est une spéciale dédicace.
Numéro 1.
The Miracle of Self-Discipline, the No Excuse Way to, of Getting Things Done, qui est donc un guide pratique de Brian Tracy, le miracle de l'autodiscipline, n'avoir aucune excuse pour avoir les choses qui doivent être faites, voilà. Donc c'est un guide pratique dans les, c'est dans The No Excuse Way. Là aussi, c'est donc une sélection qui a été piratée entre novembre et décembre 2011 sur BitTorrent à partir des blocs internet IP utilisés par l'Elysée. Selon le site youhavedownload.com, vous donnez l'adresse IP de l'Elysée, vous tombez dessus. Je rappelle que c'est cette méthode-là qui est utilisée par TMG, Trident, Media Guard pour flinguer et couper du net donc des internautes français.
Selon ceux la qui loi, ont téléchargé illégalement.
Selon la loi Hadopi, qui a été si bien soutenue par notre président Nicolas Sarkozy. Apparemment, il veut en passer une troisième pour que les peines soient réellement appliquées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec lui, il y aura la double peine. Non seulement on l'a relevé et on l'a spoté avec les radars automatiques du net, mais en plus, on en a fait une sélection. Donc, c'est pas beau de pirater sur Internet, monsieur Nicolas Sarkozy. Bon, en tout cas, si vous voulez faire le ménage en France là-dessus, je pense que la première des choses serait peut-être de faire sérieusement le ménage auprès de votre propre équipe. Je crois que ce serait quand même un petit peu mieux vu. Voilà, ça a été relevé par Nicopic, d'ailleurs, et relevé par Numérama, etc. Donc, l'adresse de ce site, youhavedownload.com. On ne sait pas quelle est la méthodologie, on sait juste qu'ils sont à l'écoute, en fait, des fichiers au moment où on les appelle pour les télécharger. Ce que fait justement la société TMG pour la Hadopi. Et comme les grandes entreprises ou les grands les collectivités locales plus ou moins grandes, par exemple à l'échelle d'un pays, réservent des adresses internet pour pouvoir être présentes, et ben tout simplement taper les adresses internet IP de l'Elysée. Et oh surprise, ils ont téléchargé des choses. C'est pas bien du tout. Alors vraiment pas bien. Bon, je sais, oui, il y a une immunité législative pour ce que peut faire le président pendant et tout ça, mais n'empêche quand même. Je pensais qu'ils étaient légalistes, hein, comme tout gouvernement de droite. Et
oui, il faut attention. Montrer l'exemple en principe. Hein.
Oui, tout à fait. Voilà, donc c'était la sélection des films, livres, musique, livres appréciés par l'Elysée. Vous pouvez la retrouver n'importe où, vous cherchez l'Elysée, téléchargez également, et là vous avez une bonne sélection de films et de livres qui peuvent être intéressants à offrir. Peut-être que le bouquin qui est en numéro 1, qui est en anglais, pas évident peut-être à offrir.
Ouais, je me méfierais de ce genre de bouquin. Moi,
ouais, mais il est achetable sur Amazon, j'ai vérifié ce matin. Voilà, ça fait partie des petits cadeaux de Noël comme ça qu'on voulait vous faire partager. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une interview qui a été remise plusieurs fois, hein, qui devait être faite en direct sur cette antenne et qui finalement a été préenregistrée. Il s'agit de Guillaume Bouzard. Guillaume Bouzard, on le connaît, on le connaît pour son parce que la radio fait aussi partie de ce milieu underground, je veux dire alternatif, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Guillaume Bouzard est né en 1968 à Paris, donc inutile de dire que c'est un sale révolutionnaire, encore une fois. Il entre aux Beaux-Arts de Toulouse en 1989, où d'ailleurs il rencontrera Pierre Dru, avec qui sera monté les Requins Marteaux. Sa carrière, il l'a forgée par la force du poignet, principalement chez les indépendants, puisqu'il a créé son propre fanzine, Kakamou, si je me souviens bien. Il a beaucoup participé aux éditions Jade, à la revue Jade, et il est enfin publié par des grands éditeurs. Guillaume Bouzard est créateur de Plageman chez Six Pieds Sous Terre. C'est lui aussi qui a fait la BD des Boy Scouts Riku et Bigou, qui était sorti chez Requin Marteau. C'est dans la mythologie de Monsieur Pabot et tous ses crétins d'amis. Il a aussi fait le Club des Quatre chez Fulgacial, qui est une parodie justement du vrai Club des Quatre.
Non, le Club des Cinq.
Le Club des Cinq, pardon. Oui, puisqu'il y avait le chien.
Ah oui.
Oui, forcément. Auteur de The Autobiography of Me, au Requin Marteau, sur lequel on a axé une partie de l'interview, puis The Autobiography of a Meat Roll chez Dargo. Il est aussi auteur de Football Football, le courrier illustré de SoFoot, et enfin de Les Chasseurs, qui est sorti l'an dernier chez Dupuis. On l'a rencontré donc le samedi 12 novembre dernier, lors de son passage à Toulouse, où il était en dédicace à la librairie Gibert Joseph. Et du coup, voilà, on devait le recevoir en direct. Finalement, ça s'est fait en manière préenregistrée. Pour les différentes raisons, ce samedi-là, on n'a pas pu faire émission. Mais n'empêche, on ne voulait pas se priver de la rencontre quand même d'un auteur qu'on apprécie bien. Guillaume Bouzard, bonjour.
Bonjour.
Tu es dessinateur, entre autres, de The Autobiography of Me, Pledgeman, Football Football, j'oublie plein de choses derrière. Tu as participé au Requin Marteau, à Jade, à Six Pieds Sous Terre, et donc tu es quelqu'un qui, quand même, a réussi à t'exprimer par la bande dessinée. Alors, avant tout cela, tu as été aux Beaux-Arts de Toulouse. Explique-nous comment les profs ont réussi à te faire, à te donner envie, à t'exprimer dans la bande dessinée.
Non, ça s'est pas passé comme ça en fait. J'ai été aux Beaux-Arts de Toulouse parce que j'avais besoin d'avoir des bases de dessin pour faire de la bande dessinée. Je faisais de la bande dessinée bien avant. Je faisais mon propre fanzine déjà avant. Et j'avais besoin de bases pour savoir dessiner, donc j'avais passé des concours, notamment à Toulouse, et je l'ai eu. Donc c'est comme ça que j'ai pu apprendre un petit peu mieux à dessiner, à m'exprimer.
On va un petit peu aller dans l'ordre, c'est-à-dire The Autobiography of Me, donc la série et Football Football. The Autobiography of Me est d'abord paru dans Le Psychopathe. Maintenant, Football Football est dans SoFoot et dans Libération. Est-ce que c'est une consécration?
Oui, on peut dire que c'est vraiment une reconnaissance, disons, une consécration. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais au moins une reconnaissance de mon travail après des années avoir travaillé dans la presse parallèle, dans les fanzinas, etc. Déjà, c'est une consécration financière, déjà, au moins, si on peut dire ça.
Oui, parce que c'est un très bon geste technique. Une série désormais chez Dargo, c'est comme la Ligue 1. Ça change des clubs amateurs comme Jade, Requin Marteau et tout ça.
Ah bah oui, carrément, c'est un vrai... voilà, je passe chez les professionnels, comme si tu veux que je dise ça. Oui, voilà, il y a une structure derrière qui est un peu plus solide, on dira. Il y a des... Voilà, c'est... Tu passes vraiment dans une catégorie supérieure, oui.
Et à ce sujet, justement, donc, en fait, ta production actuelle commence à bien se faire voir. Pledgeman, par exemple, ton super-héros que tu as créé en 1994, serait repris pour une adaptation au cinéma produite par Luc Besson. On parle de Michael Vendetta dans le rôle-titre.
Oui, bah écoute, je suis pas au courant, mais si ça peut se faire, ce serait très très bien. J'adore ces gens-là. Et je pense que j'ai tout à y gagner.
The Autobiography of Me, c'est est-ce que c'est par hasard une parodie des autobios à succès comme Fabrice Snow, Lewis Trondheim, Boulet, sur lequel tu t'es uniquement guidé par un besoin bassement pécunier?
Oui, ça a été ça à la base quand j'ai créé ce truc-là. C'était en pleine veine autobiographique avec les débuts de l'association et on nageait un petit peu là-dedans où tout le monde racontait un petit peu sa vie avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Et donc je me suis dit, bah après tout, pourquoi pas moi aussi? Donc voilà, et comme je voulais occuper le marché américain, j'ai fait tout ça en anglais, le titre en anglais, et donc voilà, c'est parti comme ça.
Le mouvement des autobiographies, bon, ça a été initié par Ego Comics à une époque où on avait surtout Glénat et Delcourt et Soleil qui cartonnaient avec leur série de Medieval Fantasy. Mais alors pourquoi ne pas avoir fait une autobio en BD d'une héroïne de fantasy aux formes généreuses? Je suis sûr qu'elles ont plein de problèmes psychologiques.
Ben c'est que je suis assez incapable de dessiner des filles déjà, c'est un gros problème pour moi. Donc du coup, c'était pas très vendeur des filles qui ressemblent à moi, à des singes ou à des hommes mal foutus, c'est pas terrible. Donc voilà, ça, c'était pas la peine pour moi d'essayer.
En fait, tu te fous de la gueule de l'arsenet de son retour à la Terre, hein. Paraît qu'il est susceptible.
Non, pourquoi? Pas du tout. par rapport à ce que je raconte dans mes histoires.
De citadins qui revient à la campagne et tout ça.
Ouais, enfin moi, disons que ces histoires-là sont étaient publiées dans le Psychopathe bien avant leur public, bien avant tout ça. Donc, mais c'est vrai qu'on nous compare souvent sur le fait que je raconte mes histoires à la campagne. Mais moi, je suis jamais retourné à la campagne vu que j'ai jamais quitté la campagne. Donc c'est le restage à la campagne.
C'est pas mal comme titre. À la campagne. Tu as forcément une faune, tu as un chien d'ailleurs, un chien qui parle. Alors, c'est quelle race ? Je te demande ça, en fait, c'est parce que je connais des centaines de familles qui ont adopté des dalmatiens et franchement, ils attendent toujours que le toutou dise quelque chose.
Alors, moi, mon chien, c'était, parce que le pauvre, il est mort cet été, donc c'était un bâtard croisé avec bâtard, en gros. Donc, je peux pas en dire grand-chose, la douleur est encore vive. Donc là, si tu veux pas que je pleure dans les 5 minutes, je vais pas en parler tout de suite.
Le club de musique dont tu fais partie pour essayer d'avoir un petit peu de relation avec d'autres personnes d'à peu près le même âge et à peu près le même goût que toi n'utilise que des CD, même pas de téléchargement illégal. La vie est si dure dans les régions à la DSL aussi peu rapide.
Oui, ouais, tout ça c'est un peu énigmatique pour moi, tout ce qui est MP3, etc. Moi je suis encore au vinyle si tu veux, donc j'ai beaucoup de mal avec toute cette nouvelle technologie, et puis j'ai pas envie de m'y coller. Donc je suis un grand collectionneur de vinyle, donc voilà, j'ai encore plein de choses à écouter sur ce format-là.
Comment ton voisinage, ton banquier, ton boulanger ont réagi après avoir lu tes livres ? Ils ont déjà appelé les urgences psychiatriques ?
Ils s'en foutent totalement, il y en a plein qui savent même pas que je fais de la bande dessinée. Et quand je vais chez mon boulanger, c'est pour acheter du pain, donc je leur parle pas de ce que je fais réellement. Donc non, ça va, tout se passe bien à la campagne pour moi.
Et ceux qui l'ont découvert par hasard, il y en a eu ?
Oui, parce que maintenant ça fait plus de 10 ans que j'habite dans mon petit village, donc il y a des gens qui savent ce que je fais, donc il y a des gens qui m'ont lu. Bon, en règle générale, je vais pas leur demander ce qu'ils en pensent. S'ils viennent pas m'en parler, c'est qu'ils ont rien compris ou que ça les intéresse pas plus que ça. Donc du coup ça se passe bien, on reste entre nous sans parler de métier finalement.
En fait football c'est juste pour montrer que toi aussi tu es comme tout le monde, tu aimes le foot. Est-ce que c'est un rôle de composition ?
Moi je suis footballeur en fait, j'aime pas regarder le foot à la télé, hormis les grands matchs de Coupe d'Europe, etc. où là il y a du beau jeu, mais sinon je suis footballeur dans l'âme, je joue depuis que je suis gamin, je suis footballeur. Donc je connais bien le foot de l'intérieur, donc je suis un vrai fan de foot, mais du jeu. Après tout ce qu'il y a autour, ça me saoule un petit peu, donc du coup, voilà, j'attaque la bande dessinée, le football en bande dessinée d'une manière un petit peu différente de ce qui peut se faire maintenant.
C'est intéressant parce que, en fait, justement, dans Football au football, tu te mets en scène principalement en tant que téléspectateur et pas vraiment en tant que pratiquant.
Oui, parce que c'est un peu le café du commerce. Quand je parle de football, c'est plutôt café du commerce. Voilà, c'est ce que pourraient penser plein de gens. Et donc, je l'exprime un peu de manière rigolote. Mais je raconte pas effectivement mes matchs de foot. Mais parfois, ça peut m'arriver aussi. J'ai quand même des planches où je parle du dimanche, de l'amateur. Et là, c'est des choses qui sont un peu plus personnelles, effectivement.
En fait, football, c'est un peu le courrier des lecteurs de la revue SoFoot. Les questions auxquelles tu réponds, est-ce qu'elles sont fantasmées ou elles sont réellement arrivées ?
Non, c'est moi qui crée mes propres questions. D'ailleurs, c'est toujours la même personne qui les pose. Ça se passe tout simplement, quand j'ai une idée, ben voilà, je mets la question qui va avec cette idée-là. Donc je travaille en sens inverse, on dira.
Il y a eu des vrais courriers qui sont arrivés ?
Pas que je sache, écoute, SoFoot me les fait pas suivre, donc du coup je pense pas, j'en sais rien.
Tes planches sont des gaufriers, tu alignes 3 cases sur 4 lignes à chaque fois, un scénario lent, aucune ellipse. Est-ce vraiment comme ça que tu comptes révolutionner la BD compagnière ?
Non, j'ai aucune velléité de révolution sur la BD, c'est juste que c'était hyper pratique pour moi de faire des cases et de les remplir. Ça m'a toujours saoulé, moins maintenant, mais ça m'a toujours saoulé de réfléchir à un découpage avant, c'est-à-dire avec des petites cases, des grandes cases. Je trouvais ça assez laborieux, donc j'avais trouvé ce moyen pour aller plus vite, en fait. Je faisais mes cases et je les remplissais. C'était très simple, hein, finalement.
Et puis dedans, pour football, t'as juste à mettre quelque part un rond, et puis voilà, c'est un rond, et puis c'est plus facile.
Voilà, mais non, mais c'est le même procédé, exactement, oui.
perso, un match de foot, c'est tellement ennuyé que j'ai le temps de me faire deux mangas un par mi-temps. En fait, à vrai dire, je regarde jamais les matchs de foot, sauf quand j'y suis contraint. Comment pourrais-tu me réconcilier avec mes deux co-animateurs qui ne jurent que par le ballon rond et qui se refilent les sauts-foot pendant que je fais mes chroniques BD, ce qui est vachement vexant pendant mon émission de radio?
Bah, j'aurais du mal à te conseiller, puisque moi-même, ça me fatigue de regarder les matchs de foot, tellement c'est peu intéressant. Hormis certains matchs, mais il faut en regarder 10 pour avoir un truc sympa. Donc je te conseille de plutôt regarder le rugby.
Ah là, je crois qu'on va s'entendre. Guillaume Bouzard, merci beaucoup. Et je ne sais comment dire. Bon vent, vu qu'il y a du bon vent.
Bon, mais une prochaine fois, à la salle, non plus à la salle éphémère, effectivement.
Et oui, parce qu'il a connu la radio. Merci.
Guillaume Bouzard, donc. Ah oui, il y en a qui ont connu l'époque du 9 bis avenue Frédéric Estève. Hein.
Eh ouais. Ouais, on dirait.
Ça fait plaisir. Merci de nous l'avoir appelé.
Remarque, on est en 68, donc en 88, 20 balais. Bon, bah, c'était la bonne époque. Hein.
Ah oui, tout à fait.
Pas de problème.
Ah oui,
il était au Beaux-Arts, donc, il avait le temps. Hein.
Là, ça, c'est petit. C'est petit. Ça va nous attirer des emmerdes.
Non, je dis pas ça parce que c'est une des seules pages de SoFoot que j'aime pas tellement, quoi. Dans
Oh, ça y est, c'est dit. Voilà. Guillaume Bouzard qu'on a rencontré. Merci à Raphaël de la librairie Gilbert Joseph, en tout cas, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup. C'était une histoire au rebondissement. Hein. On a eu deux annulations, un train loupé. Enfin bon. Voilà. Mais au moins cette interview a été diffusée. C'est assez fun. Moi, j'aime bien The Autobiography of Me, même si c'est un trait un petit peu jeté et tout ça. Mais le côté complètement décalé et frappadingue, moi, j'ai absolument adoré. Donc, c'est un beau truc. On va faire un break musical. Après, on va entamer des choses qui sont beaucoup moins drôles. Vous allez voir ça pourquoi. En attendant, un petit peu d'esprit de Noël. Esprit de Noël où j'ai été assisté à la programmation musicale par ma chère et tendre et douce. Et je lui ai dit... Punaise, mais en prog musical, qu'est-ce que l'on a comme esprit Noël? Elle m'a dit, bah, tu fais comme tous les publicitaires, tu sors ça. Danny Elfman, l'introduction de Edouard aux mains d'argent. Thank you. Le thème d'ouverture d'Edouard aux mains d'argent, écrit et dirigé par Danny Elfman. C'est le supplément week-end numéro 299 sur Radio FMR 89.1 MHz. Et du sport est parti, alors que ça allait le concerner. C'est super, hein. On voit qu'on a des super équipes, hein, ici, qui suivent vachement ce que vous faites. Alors que, c'est vrai que on aurait pu, faire des parler d'albums, de bandes dessinées qui sortent. J'ai encore un bouquin d'ailleurs à chroniquer, qui a déjà été chroniqué dans le passé, à propos d'une référence d'une chronique future par Thomas. Mais là, malheureusement, il faut dire que décembre, janvier, c'est pas une période très favorable à pas mal de dessinateurs qui disparaissent et se retirent pile à ce moment-là. C'est encore le cas, figurez-vous, puisqu'on a trois dessinateurs coup sur coup du monde du comics qui ont disparu, à savoir Jerry Robinson, Joe Simon et Eduardo Barreto. Bref, inutile de dire que là, c'est une actu qui est assez lourde sur la bande dessinée et que c'était difficile quand même de passer après. On va commencer par Jerry Robinson, en fait, qui est disparu, qui nous a quitté en fait le 7 décembre dernier, donc ça n'est pas encore tout à fait récent. De son vrai nom, en fait, il s'appelle Cheryl David Robinson et il est né le 1er janvier 1922 et à 17 ans, alors qu'il est encore étudiant en journalisme à l'Université de Columbia, il est engagé comme encreur lettreur de Bob Kane en 1939. Bob Kane, ce dernier venait justement de créer Batman. Et les moyens sont alors tout à fait modestes. C'est, à vrai dire, dans la salle de bain de la chambre de pension de famille que Jerry louait. C'est là qu'il va faire ses premiers ancrages et principalement les décors autour donc de Batman. Mais le succès de Batman va être littéralement explosif, au point que National Comics va recruter l'équipe et l'installer dans leurs locaux du 480 Lexington Avenue. Et alors, attention, en collègue de bureau dans l'open space, rien de moins que Jack Kirby, Fred Ray, Mort Meskin, Jerry Siegel et Joe Shuster. Eh oui.
Shuster.
Superman est à un bureau de Batman. Bob Kane va très vite parler de lui adjoindre un side quick. C'est Jerry Robinson qui lui donnera le nom de Robin. Jerry a pris de l'importance entre-temps puisqu'il sera devenu premier encreur. Quand en 1940, Batman aura sa propre revue en dehors de Detective Comics, il lui manque encore une némésis. Et c'est encore Jerry Robinson qui, inspiré de L'Homme qui rit de Victor Hugo, trouvera le personnage de The Joker, même si un temps, cette création fut revendiquée plus tard par Bob Fisher. C'est encore Jerry Robinson qui eut l'idée du majordome Alfred Pennyworth pour s'occuper de Bruce Wayne et qui créa un autre super-vilain torturé, Doubleface. Bref, il a bien peuplé Gotham en psychopathe et autre redresseur de tort quand, en 1944, il travailla pendant 2 ans avec Mort Meskin. En 1953, il créa pour le New York Herald Tribune la série d'anticipation Jet Scott, une petite merveille de SF qui est restée en fait publiée qu'un an et demi et qui vient tout juste d'être compilée en anthologie par Dark Horse. Aux États-Unis, je précise, pas encore en français. Il fit par la suite carrière en tant que caricaturiste politique, une carrière en freelance qui continuait encore récemment puisqu'en 99, il créait le manga Astra avec le chanteur Sindra Kohn et les dessinateurs Shojin Tanaka et Kenichi Soichi. Bref, Jerry Robinson joua un rôle déterminant dans le combat de Siegel et Shutter contre DC Comics pour récupérer une partie des droits sur Superman dont les auteurs avaient été évincés de l'exploitation dès les années 40 sans aucune contrepartie financière. Et depuis, les noms de Siegel et Shutter sont enfin proprement crédités au générique comme étant les auteurs de Superman. Jerry Robinson donc nous a quitté le 7 décembre dernier et ça fait bien des super-vilains et bien des personnes qui gravitent autour des super-héros qui sont malheureusement orphelines. Enfin, tu connaissais, toi, du sport, le personnage.
Bah oui, 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 quand même. Quand même, parce que bon, bah.
Ah bon, tu m'as fait peur. Non, mais parce que tu relances pas derrière, donc c'est pas pratique, quoi.
Mais non, mais que dire de plus?
Bah, je sais pas, que j'ai oublié des trucs, comme d'hab. J'ai oublié de signaler que, bien évidemment, je me suis aidé de Didier Passamonique, qui a fait un excellent article là-dessus sur ActuABD. J'ai fait après des recherches complémentaires dans la Comixopédia et la Wikipédia anglophone, sur laquelle il y a pas mal d'informations, là aussi extrêmement intéressantes sur Jerry Robinson. C'est pas le seul à nous avoir quitté, là c'est un autre personnage vraiment important qui nous a quitté cette semaine, c'est Joe Simon, co-créateur de Captain America, et à l'âge de 98 ans, et ben donc cet autre grand du comics nous a quitté, principalement connu pour ses collaborations avec Jack Kirby. De son vrai nom, Jaime Simon, il est issu d'une famille juive anglaise émigrée à New York. Et après des études en graphisme, il travailla notamment pour de l'illustration et dans la section comics du journal local. Il rencontra Lloyd Paquet, un éditeur qui reprenait les comics de journaux en fait dans des revues spécialisées, Funnies, donc qu'il compilait hein, des strips qui étaient déjà sortis dans les journaux. Joe Simon fit pour lui des BD de western qui étaient très 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 à la mode à l'époque aux États-Unis. Et quatre jours plus tard, il entra à Timely où il créa ses premiers super-héros, notamment Fury Mask, signé sous le pseudonyme de Gregory Sykes. Dans ses locaux, il y rencontra Jack Kirby. Ensemble, ils créèrent leur petit studio. Le personnage de Captain America fut créé en décembre 1940. Ces temps de guerre en Europe, il fut immédiatement un hit. 1 million d'exemplaires vendus dès le premier numéro. C'est pas pour rien que, justement, cette période-là est appelée l'âge d'or des comics. La guerre fit le succès des Boy Commando. Simon et Kirby créèrent leur petit studio indépendant à la production à la fois très quantitative et vaste. Parmi les sujets abordés, des comics d'horreur, de romance, de suspense, de guerre, de western, Kirby crayon, Simon encre, les scénarios sont écrits en commun et ils sont, je vais dire, juste à un carrefour stratégique dans le centre-ville de New York, à quelques pas des différents éditeurs, Timely qui deviendra plus tard Marvel et National qui deviendra plus tard DC et d'autres éditeurs encore ici et tous les autres. L'après-guerre sera amère à cause de la guerre contre les comics des pouvoirs puritains, excusez-moi, et le mouvement de censure qui donna lieu à la Comics Code Authority. Joe Simon, tout comme Eisner, se tournera, dans cette période de vache maigre, vers la publicité. En 1954, son studio Mainline ne tiendra qu'une année, et il entre comme scénariste puis responsable éditorial chez Archie Comics. Néanmoins, il se remit avec Kirby en 1959 le temps de créer un nouveau super-héros, The Shield, concurrent direct de Captain America. Ben tiens donc. Il crée ainsi une revue humoristique dans les années 60, concurrente de Mad Magazine, et continua sa carrière principalement comme indépendant. Joe Simon continua longuement sa carrière, mais il tenta aussi de revendiquer la création du personnage de Captain America face à Marvel pour en récupérer les droits, mais il perdit en justice. Marvel ne fut pas complètement rancunière, hein, quand même, d'un autre côté, car il l'invita à une apparition publique en 2007 lors de l'épisode de la mort de Captain America. Ce fut sa dernière grande apparition en public. Donc Joe Simon qui nous a quittés à l'âge de 98 ans, de son vrai nom, Jaime Simon. Là aussi, je remercie Didier Passamonique pour les informations qu'il m'a pointé, et on a appris hier la disparition soudaine de Eduardo Barreto à 57 ans, dessinateur pour DC Comics, hein, mais là on est dans la période beaucoup plus moderne puisque lui il a principalement travaillé sur la série Teen Titans donc dans les années 80-90 principalement. Donc là aussi ça a été une semaine très très difficile et très dure, je veux dire, pour le milieu du comics américain, principalement de comics de super-héros. Sapalabre en antenne. Ben oui, il faut que l'on prépare la 300e. Ce sera le 7 janvier, pardon, excusez-moi. Parce que faut pas oublier aussi qu'on sera en direct à Angoulême fin janvier et tout ça. Donc le 7 janvier, on fera une 300e. On espère tout plein de trucs comme d'habitude. Avec strictement rien, même pas de galette des rois, non que dalle, mais si ce sera plein de choses et plein de trucs bien rigolos, et oui, il y aura la galette, donc promis juré, on va bien s'éclater. Néanmoins, on reste dans les grands mythes américains, excuse-moi, je me suis trompé de micro.
Il va falloir faire une grande galette alors.
Je crains bien, oui. Ah on reste dans les grands mythes américains, Dus.
Les mythes, non, parce qu'il s'agit vraiment de l'histoire.
Des grandes légendes, je vais dire.
Et là, en fait, c'est le bouquin d'Howard Zinn, Z-I-N-N, qui est d'ailleurs mort. C'est marrant, l'année dernière, hein, en 2010, donc il est décédé. Bon, il était quand même relativement âgé. Hein,
oui.
Il avait grosso modo le même âge que les deux premiers que t'as cités là, quoi. Donc.
Il y en avait un qui avait 98 ans et l'autre avait 70, ouais, je crois.
Ouais,
80.
Enfin, il était dans les 70-80 de toute façon, quoi. Hein, donc 1922-2010, tu vois, quoi. Donc.
Ah bah oui, bah exact. Pardon, bah non, en fait, oui, 1922 et Kirby, bon, était né un petit peu plus tôt, effectivement, le même âge que Jerry Robinson.
Voilà. Ouais. Alors donc, c'est un ouvrage qui est un petit peu un ouvrage de référence qui est régulièrement cité par ceux qui défendent les causes altermondialistes, qui veulent parler des États-Unis, du rôle des États-Unis et de l'histoire politique des États-Unis. Parce que, en fait, ce livre, Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, a connu plusieurs éditions. Et là,
il a été très régulièrement mis à jour, voilà. Complété, et c'est vrai qu'en général, il est d'une tendance gauchiste, hein, on va dire quand même.
Alors là,
mais les gens ne l'ont pas forcément lu en entier, ceux qui le citent. C'est ça qui est rigolo.
Ouais, ben, parce que c'est quand même un pavé, hein, faut dire ce qu'il y a. Bon, ben, c'est vraiment l'histoire du début jusqu'à nos jours, hein, de toute façon, mm-hmm. quoi. Donc, hein, la première édition est là de 1980, revisitée en 95, puis en 98, et en 99, puis en 2005. Et là, bon, ben, c'est la dernière édition, donc, revisitée par Howard Zinn. Zinn qui a enseigné l'histoire, qui a enseigné les Sciences Po à la Boston University dans le Massachusetts. Donc, il a écrit environ une vingtaine de bouquins, dont quelques ont été traduits en français. Il a même écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Karl Marx, le retour, en 2002. Une autobiographie qui s'appelle L'impossible neutralité en 2006. Et surtout l'un de ces derniers, hein, qui est d'ailleurs tiré d'un bouquin très fameux de David Thoreau, La désobéissance civile, qui est également un bouquin qui est très souvent cité par les gauchos de service, on va dire, hein, le bouquin qui s'appelle Désobéissance civile, que Thoreau avait écrit en 1848, si mes souvenirs sont exacts, une à deux années près, et qu'il a intitulé Désobéissance civile et démocratie, également sorti dans sa version française l'année dernière, en 2010. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est que, bon, bien sûr, ça nous parle d'une période d'histoire assez grande, parce que, bon, bah, ça prend effet à partir de la conquête, on va dire, eh bien, conquête des Amériques par Christophe Colomb, à partir du moment où il pose le pied sur les premières îles des Caraïbes et qui commence à massacrer allègrement les Indiens Arawak qui étaient les habitants naturels de ces îles depuis générations et des générations et des générations. Et en fait, ce premier chapitre où il décrit justement l'action de Christophe Colomb, en lui rendant quand même un certain hommage, en disant que c'est quand même lui qui a réussi un petit peu à, on va dire, à réguler la conquête de ces îles, hein, parce que moi, en fait, ce qu'ils étaient allés chercher, est-ce que Christophe Colomb avait vendu aux Espagnols pour se faire armer des bateaux et se faire prêter du pognon pour pouvoir payer l'équipage?
C'était une route plus rapide pour aller en Inde. Et
c'était une route, d'abord, une route plus rapide pour aller en Inde, mais c'était également la possibilité de trouver de nouveaux filons, c'est-à-dire de trouver de l'or. Hein, et ça, il l'a vendu à partir de la deuxième fois qu'il retournait en Amérique. Hein, il a dit ouais, il y a plein d'or et tout, il y a pas de problème. Les Indiens, ils en ont rien à foutre. Pour eux, c'est juste des parures. Ils voient pas la valeur que ça peut avoir. Enfin bref, déjà, bon ben il y avait une visée capitaliste et une visée vraiment très très pécuniaire.
Dis pas ça en gros mots. Ah, si, tu heurtes mes convictions politiques. Si. C'est mal vu dans cette radio.
Si si. Et donc Zinn déclare. Hein, puis bon, ben, c'est pratiquement en préambule. C'était le premier chapitre donc qui s'appelle Christophe Colomb, les Indiens et le progrès de l'humanité. Il déclare « Le point de vue qui est le mien en écrivant cette histoire des États-Unis est bien différent. La mémoire des États n'est résolument pas la nôtre. Les nations ne sont pas des communautés et ne l'ont jamais été. L'histoire de n'importe quel pays, présentée comme une histoire de famille, dissimule les plus âpres conflits d'intérêts qui parfois éclatent au grand jour et sont le plus souvent réprimés. Entre les conquérants et les populations soumises, les maîtres et les esclaves, les capitalistes et les travailleurs, les dominants et les dominés, qu'ils le soient pour des raisons de race ou de sexe. » Bon, ben voilà, les choses sont dites et on sait à quoi s'attendre pour le restant du bouquin. Alors après, bien, on va suivre une route plus ou moins linéaire dans le temps. En fait, hein, c'est-à-dire l'histoire des premiers colons et tout ce qui s'en est suivi. Et bon, l'histoire des colons au départ, elle est très dure, hein, y a pas de problème, quoi, parce que bon, bah, ce sont quand même les premiers colons sont des gens qui ont été plus ou moins virés de chez eux, qui ont été obligés de partir. Hein, les premiers colons anglais, c'est ça, hein, c'est le Mayflower et tout. En fait, c'était les puritains qui refusaient les consignes religieuses telles qu'elles existaient en Angleterre, qui trouvaient le roi trop mou par rapport à ces convictions qui existaient entre le catholicisme et le protestantisme, alors que ils avaient vraiment une vision de la Bible qui était vraiment très pure et dure, on va dire, et c'est pour ça que bon bah au fur et à mesure bah ils ont été obligés de partir, de s'exiler. Bien sûr, avec eux sont partis on va dire des parias, des renégats et également des gens qui se sont dit OK, qu'on va pas faire ça pour n'importe quoi, on va faire ça parce que certainement, il y a des choses qui sont très précieuses et qui peuvent rapporter pas mal de pépettes. Alors, bien sûr, ça amène quoi ? Ça amène à partir du moment où on commence à avoir une certaine agriculture et qu'on commence à découvrir des plantes qu'on connaissait pas en Europe, telles que le maïs, qui était cultivé par les Indiens, qui était l'une des bases de nourriture principale des Indiens, ou qu'on trouve du coton. Tiens, bizarrement, on se dit une source d'approvisionnement et une source d'enrichissement qui va nous être très très profitable. Mais qui dit agriculture dit main-d'œuvre, et de la main-d'œuvre, il y en avait pas tellement que ça. Parce qu'à partir du moment où les colons se sont dit « Ok, les Indiens nous accueillent » et tous les récits convergent. Alors, ce qui est très intéressant dans le bouquin de Zinn, c'est qu'il y a une bibliographie et une source...
Oui, c'est la documentation
qui est une documentation qui est énorme, hein, de part et d'autre. Enfin bon, il allait chercher vraiment, c'est un travail de fourmi, un travail de titan. Carrément quoi, pour justement avoir les différents témoignages. Et bon, pratiquement tous les témoignages concordent pour dire que les Indiens au départ les ont reçus à bras ouverts. Alors on dit oui, vous êtes des hommes comme nous, il y a pas de problème, on vous offre des présents et tout. Même Christophe Colomb, la première fois qu'il débarque et qu'il est reçu avec son armée. Et ils arrivent avec l'armure, on se rappelle les deux films de Christophe Colomb, 1492, et puis l'autre Christophe Colomb, celui avec Depardieu, où on les voit avec leurs armures, leurs épées en armes. Et puis bon, en phase 2, qu'est-ce qu'il y a des types qui sont pratiquement à poil, en pagne, et qui leur filent des cadeaux, leur filent à manger, bienvenue les gars, vous faites comme chez vous et tout. Puis bon, ils sont complètement ébahis. Et eux, la première chose qu'ils font pour justement essayer d'avoir de la manœuvre, c'est d'essayer d'opprimer les Indiens, de leur dire, vous allez travailler pour nous, les gars, quoi. Et puis, vous allez comprendre un petit peu, parce qu'il y avait déjà cet esprit de supériorité. Nous, on vient d'Europe. Nous, on a la culture. Nous, on a des siècles de culture. On est supérieur à vous. Donc, vous devez vous plier à notre façon de voir les choses. Et déjà, en Europe, de toute façon, existait cette espèce d'esclavage des possédants par rapport à ceux qui n'avaient rien. Ça s'appelait servage, tout simplement. Les conditions étaient un petit peu différentes, mais en fait, ça revenait pratiquement au même. Des gens travaillaient pour d'autres qui ne foutaient rien de leur journée et qui avaient toutes les richesses. Hein, les choses n'ont pas beaucoup changé, les choses ne changeaient pas du tout. On appliquait les mêmes recettes de toute façon, peut-être à un niveau différent, peut-être en intitulant les fonctions de manière complètement différente. Ce n'était pas le roi
face à ces sujets, mais c'était bien quelqu'un qui avait plus d'argent et qui commandait et qui disait tu travailles pour moi. Et le bénéfice de notre travail, de votre travail, me revient à moi, pas à toi. Toi, tu as juste le droit de vivre pour travailler, et c'est largement suffisant. Bon, c'était un petit peu ça le principe, quoi. Alors donc, on en arrive tout bêtement, parce que les Indiens, au bout d'un moment, se disent, on comprend pas, qu'est-ce que c'est que ce travail et tout, on se soumet pas, donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a la connaissance du terrain, on se barre ailleurs, on se planque, et puis on les laisse se démerder. Alors on sait que la vie des premiers colons était très très dure, hein. C'est-à-dire que il y a pratiquement sur l'ensemble des colons qui sont partis dans au XVIIe siècle, dans les années 1600, de 1600, on va dire la premiers colons vraiment sont arrivés vers 1600 et jusqu'à 1650, 1660, il y a vraiment eu pas mal de colons. Eh bien, il a fallu recourir, bien tout simplement, à l'esclavage. Alors pour l'esclavage, là aussi c'est une autre paire de manches et tout, car comme le déclare Wardine, je le cite, l'esclavage existait dans les États africains. Les Européens en prirent parfois prétexte pour justifier leur propre traite des esclaves. Cependant, comme le souligne Davidson, le statut des esclaves en Afrique était très proche de celui des serfs européens, autrement dit, de l'écrasante majorité de la population européenne. Bref, rien de neuf, quoi. On savait exactement ce qu'on faisait. De l'esclavage, bien sûr, découle cette forme de différence.
Il en est qu'à la page 10 sur 981, quand même, du bouquin.
Non, là, j'en suis déjà à la page 30-40. De l'esclavage, découle et on peut dire découle et également l'esclavage, c'est également à l'origine, il peut y avoir cette espèce de notion qu'on appelle le racisme. Hein, alors là aussi, il y a tout un topo qui est fait sur le racisme et tout. À quoi c'est dû? Pourquoi est-ce qu'une personne qui a une couleur différente de peau, qui a une façon de vivre qui est différente, pour être inférieure, pour être traitée d'inférieure, quels sont les tenants et les aboutissants, quels sont les modes de pensée qui peuvent faire qu'on arrive à ce genre de raisonnement. Alors, pour Dean, il y a plusieurs choses, bien sûr. Entre autres, il déclare, en effet, toute mise en avant du caractère naturel du racisme minimise la responsabilité du système social. Là, il est très clair, de toute façon. Hein. En revanche, si ce caractère naturel se révèle indémontrable, c'est que le racisme résulte des conditions spécifiques qui nous incombe de faire disparaître, à savoir la relation dominé-dominant. Nous ne pouvons rien savoir de ce qu'aurait pu être le comportement réciproque des Noirs et des Blancs dans des conditions favorables, c'est-à-dire sans cette subordination historique, sans ces motivations financières qui entraînèrent l'exploitation et l'esclavage des Noirs, sans cet instinct désespéré de survie qui imposait l'usage d'une main-d'œuvre forcée. Or, avant même l'année 1600, date à laquelle l'esclavage prit son essor, la couleur noire était connotée négativement. Avant le XVIIe siècle, en Angleterre, le mot « black » évoquait, selon l'Oxford English Dictionary, « crasseux, souillé, sale, infect », avoir de sombres ou de criminels desseins malfaisants. Se rapporte à ou évoque la mort, la morbidité, funeste, désastreux, sinistre, inique, atroce, affreusement mauvais, marque le déshonneur, la honte, le châtiment. Et à l'opposé, la poésie élisabéthaine usait souvent de la notion de blancheur pour signifier la beauté. Alors, je continue à citer, il est fort possible que même en dehors de facteurs circonstanciels, la noirceur et l'obscurité associées évidemment à la nuit et à l'inconnu puissent évoquer de toute façon toutes ces notions négatives. Mais la présence physique d'un être humain différent est un fait puissant et les conditions dans lesquelles s'inscrit cette présence déterminent de façon cruciale le processus par lequel un préjugé initial contre une couleur parmi tant d'autres, dissocié de tout rapport à une humanité quelconque, se met en violence et en haine. Se mue en violence et en haine. Bref, c'est assez explicite quand même, disons, du point de vue de Howard Dean. Et je continue avec, en dépit de tous ces préjugés concernant la noirceur, comme en dépit de la suggestion spécifique des Noirs vis-à-vis des Blancs dans les Amériques du XVIIe siècle, il existe des preuves que lorsque Blancs et Noirs se trouvaient confrontés à des problèmes communs, c'est-à-dire qu'on avait des esclaves qui travaillaient, des esclaves Noirs qui travaillaient dans les plantations de coton, mais il y avait également toute une immigration qui n'avaient pas été forcés, mais ce qu'on appelait des serviteurs sous contrat, c'est-à-dire des Irlandais, des Écossais, c'est-à-dire les populations qui étaient sous le joug
hein, de la royauté anglaise et qui pouvait partir et qui avait un contrat de 7 ans ou de 5 ans, c'est comme ça que ça se passait, et qui partait pour les Amériques pour travailler. Et au bout de ce contrat, eh bien, bon, eux, ils étaient rémunérés. Bon, pas grand-chose, quoi, mais bon, on leur payait de quoi vivre, on leur payait le logement, ils avaient un petit pécule, et au bout de ce contrat, ben, ils pouvaient s'installer sur leur terre, ils pouvaient acheter une terre et devenir eux-mêmes des oppresseurs, des dominants, soit ils pouvaient rentrer chez eux, tout simplement. Et donc, Zine déclare donc, quand les blancs et noirs se trouvaient confrontés à des problèmes communs, un travail commun ou un ennemi commun en la personne de leur maître, ils se comportaient les uns envers les autres en égaux. Bref, c'est toujours le même rapport. Donc, et pour Zine, c'est très clair de toute façon. Hein, c'est un rapport d'oppresseur et d'opprimé de toute façon dans tous les cas de figure. Un peu plus loin, on apprend un petit peu comment, après avoir développé la puissance économique du Nouveau Monde, il a fallu lutter contre un oppresseur qui était omniprésent et qui était en fait le royaume d'Angleterre. Parce que, économiquement, toutes les marchandises et tous les produits qui étaient fabriqués, qui étaient cultivés aux États-Unis, étaient taxés.
Non, c'était pas les États-Unis, en Amérique du Nord.
En Amérique du Nord, étaient taxés par le royaume anglais. Tout ce qui était exporté, il y avait une taxe qui revenait au royaume d'Angleterre de toute façon. Et donc, au bout d'un moment, les colons qui se sont dit, nous, on se crève le cul, nous, on s'est fait chier pendant quelques générations maintenant à cultiver, à installer une espèce d'industrie, une espèce d'agriculture qui tienne la route et qui commence à rapporter pas mal de pépettes, mais on se fait taxer comme des bêtes par des gens qui sont là-bas, de l'autre côté, à 5000 bornes, en Angleterre, et qui ne foutent rien et qui profitent du produit de notre travail. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à y avoir quelques petites révoltes, quelques gens qui se disent, c'est pas normal, pourquoi on ne créerait pas tout simplement notre propre entité, qu'on ne jouirait pas nous-mêmes de l'ensemble du fruit de notre labeur. Bon, ceux qui disaient ça, c'était pas les pauvres, c'était les riches. Ceux qui étaient déjà installés, c'était les maîtres, et qui ne voulaient pas partager leur richesse, généralement. Quoi. Alors, il faut savoir aussi que, Zine le démontre bien, après de maintes recherches, que déjà, à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, la part de richesse qui était concentrée dans une très petite population était pratiquement la même
qu'actuellement.
Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait 2% de la population, 3% de la population qui détenait au moins 60-70% de l'ensemble des richesses du pays ou d'un État aux États-Unis. Donc, des siècles sont passés, mais la situation est pratiquement restée la même. Alors, le bouquin aussi très intéressant parce que, un petit peu plus loin, on apprend justement la naissance des différents États. On apprend également la naissance des deux partis principaux, le parti républicain qui est le parti le plus ancien en fait. Hein. Oui. Les démocrates sont venus un petit peu après. Enfin, ils sont venus contre le parti républicain qui s'appelait en plus le parti Whigs. Comme les Whigs anglais, Whigs anglais qui avaient au XVIe siècle,
c'était les conservateurs,
qui s'étaient opposés à Cromwell à l'époque quand Cromwell, avait fait une réforme de l'agriculture, avait été très très disputée parce que les nobles justement se voyaient confisquer pas mal de leurs terres qui étaient redistribuées à des gens qui voulaient les travailler. Sous la mainmise, sous la férule des propriétaires qui en récoltaient quand même une certaine partie, mais qui devaient quand même un petit peu partager. Et donc, ça s'est transmis justement dans ce nouveau monde et cet état politique. Alors, au départ, politiquement parlant, la différence entre les républicains et les démocrates, c'est que les républicains étaient pour la partition complète avant 1776, étaient pour la partition lors de la révolution américaine, c'est-à-dire dans les années 1700, il y a eu la fameuse guerre de 7 ans qui a duré de 1756 jusqu'en 1763, où justement
les Français et les Anglais se sont foutus sur la gueule, et ça continue en Louisiane.
Ça a été un des prétextes pour que les opposants et les riches surtout se disent « Ok, là c'est le bon moment, on se bat contre les Anglais, on les vire, comme ça on est enfin chez nous ». Et ça leur a également servi de prétexte un petit peu plus tard lors de la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire vers la nouvelle frontière, pour se venger de ce que les Indiens avaient fait, parce que pas mal de tribus indiennes avaient pris fait et cause et avaient combattu du côté des Anglais. D'autres avaient combattu du côté ou avaient dit non, non, ça nous regarde pas, on a rien à foutre. Mais quelques tribus indiennes avaient pris fait et cause pour les Anglais, se battaient du côté des Anglais. Et donc, eh bien, pratiquement, on va dire presque un siècle plus tard, hein, lors de la conquête de l'Ouest, hein, au 19e siècle, eh bien, on s'est servi de ça comme une des motivations pour dire, oh les gars, vous étiez contre nous, alors bon, bah, maintenant vous fermez votre gueule, vous vous cassez, parce que nous on a besoin de ces terres pour les cultiver, parce que nous on va en ramener du pognon. Donc pour ce parti républicain, eh bien qui au départ était le parti qui voulait justement, eh bien être autonome, c'est-à-dire c'est le parti qui a dit bon ok, on en a marre des Anglais, nous on est pour la création d'un État fédéral américain, c'est-à-dire qui va englober les 13 États. À l'époque, il n'y avait que 13 États encore aux États-Unis, donc ils ne s'appelaient pas encore les États-Unis, hein, et eux, ils étaient pour justement bien quand même une espèce de contrôle centralisé de ce qui se passait dans l'ensemble de ces 13 États. Mais dans ces 13 États, il y avait des États du Sud, bien sûr.
C'est très amusant parce que c'est exactement à l'opposé justement d'une partie très importante du parti républicain actuel, qui est ce qu'on appelle le Tea Party.
Oui, oui, de toute façon.
Qui eux sont absolument alors contre-fédéralistes et qui parlent de casser Washington.
Oui, oui, un Tea Party qui dont le nom provient de cette fameuse Boston Tea Party et qui a été, on va dire, mythifié comme étant, eh bien, une révolte de pauvres qui avait balancé plus de, alors là, c'est assez énorme, hein, parce qu'ils avaient carrément balancé une cargaison d'environ 5 tonnes de thé, ce qui était énorme, hein, ça représentait environ 6 ou 7 bateaux pleins de thé qui devaient partir à la direction de l'Angleterre et qui en fait
qui revenaient et qui étaient taxés par la Compagnie des Indes. Puisque le thé était importé des Indes et c'était un monopole.
Oui, non, mais qui devait partir pour l'Angleterre. Hein. Partir pour l'Angleterre. Un mec qui était taxé, mais qui devait partir pour l'Angleterre, mais qui en fait ne rapportait rien. C'est-à-dire que il faisait escale, il se servait des infrastructures de Boston, du port de Boston c'était tout à la charge de Boston. Mais ça ne rapportait rien aux Américains. Et tout était pour les Anglais. Et donc ils se sont dit, c'est pas normal, il y en a marre et tout, vous vous servez de nos trucs et tout, vous utilisez nos ports, nos trucs, ça ne nous rapporte rien, donc ok, on y va, on dégage. Et ça en fait, on a dit, au fait, c'était une manifestation qui avait été organisée par les dockers, par les travailleurs et tout ça, mais en fait ça a été organisé par ceux qui étaient les patrons de la ville de Boston, hein, et qui étaient les possédants, les grands possédants de la ville de Boston. Bref, un bouquin qui va très très loin, c'est-à-dire on pourra en causer pendant des heures et des heures sans problème, aller plus loin un petit peu, quoi. Et on se rend compte que du début pratiquement jusqu'à nos jours, il y a toujours eu cette dualité entre ceux qui possédaient et ceux qui étaient plus ou moins forcés de suivre le mouvement. Il y a aussi, ce qui est assez intéressant, c'est quand on nous parle de l'esclavage, on nous parle bien sûr de la guerre contre les Indiens. Alors les Indiens, ils en ont pris plein la gueule. Et là, c'est pas peu de le dire, hein, parce que ils ont été rejetés, mais carrément rejetés encore plus à l'ouest au fur et à mesure que on avançait vers l'ouest et tout. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand il y a eu des guerres contre les Indiens, et c'est-à-dire que il y avait ces 13 États qui étaient déjà moyennement industrialisés, où l'agriculture était assez florissante, que ce soit pour le coton ou d'autres trucs comme ça. Et en fait, les tribus indiennes, elles, étaient repoussées donc à l'extérieur de ces États. Et s'il y avait des escarmouches qui étaient fréquentes, elles ne concernaient pas tellement les possédants, elles ne concernaient pas tellement les grandes exploitations. Pourquoi ? Parce que au bord de cette frontière, justement, avec un grand F, un F majuscule, il y avait de petits exploitants qui étaient là, et puis qui étaient plus ou moins les délaissés, qui se disaient on n'a rien à foutre, on refuse de servir comme on était des serviteurs sous contrat, on a terminé notre contrat, on s'est installé là, mais on n'a pas de place à l'intérieur puisque tout appartient aux gros maîtres, aux gros possédants, et donc ils essayaient de faire leur blé un petit peu, leur beurre un petit peu en dehors, mais ils étaient au contact, c'était eux qui étaient la frontière entre le monde civilisé et les Indiens, donc c'est eux qui prenaient tout dans la gueule. Il servait de tampon, quoi. Et à plusieurs phases, à plusieurs moments de l'histoire, d'ailleurs, ils ont servi de tampon, hein, plus au fur et à mesure que la frontière reculait comme ça, qu'ils allaient vers l'ouest. Et ça a toujours été le même cas de toute façon quoi. Alors là c'est vraiment très très bien foutu, c'est un pavé qui est assez incroyable. On nous parle également de la situation de la femme, il y a tout un bouquin qui est fait uniquement sur la situation de la femme.
Ouais ouais, qui fait là aussi référence, enfin de toute façon l'ensemble du bouquin fait référence.
C'est vraiment le bouquin qu'il vous faut lire. Bon, alors c'est un bouquin qu'on se prend comme ça, on se prend un petit chapitre, on se le lit, on peut se revoir pas mal de petites choses, c'est vraiment et en même temps, bien, on apprend les tenants, les aboutissants des grandes figures historiques, des grands moments historiques, hein, c'est-à-dire la déclaration d'indépendance. On apprend que les signateurs, les pères fondateurs, en fait, eh bien, faisaient partie des plus grands possédants. Qu'à l'époque de la signature et de la déclaration d'indépendance en 1776, eh bien, c'était quand même George Washington qui possédait le plus grand nombre d'esclaves, alors qu'il se déclarait contre l'esclavagisme, quoi. Il disait bon bah l'esclavagisme c'est pas bien et tout, oui mais c'est quand même mal nécessaire. Bon alors il y a toutes ces ambiguïtés, toutes ces contradictions qui sont vraiment très très intéressantes, qui nous apprennent qu'en fait eh bien c'est un pays, hein, c'est un continent pratiquement qui s'est créé sur des contradictions internes, des contradictions intellectuelles et morales, mais qui ont été également forcées par le fait qu'il n'y avait vraiment pas trop le choix. D'un moment ou un autre, si, il y avait quand même le choix, mais bon, quand même assez touffu quand même. Et même, alors, on a plein de déclarations de tous ceux qui sont devenus des personnages très très célèbres par la suite, hein, tels que Lincoln, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Lincoln, qui d'ailleurs était un des premiers républicains très très célèbres, hein, de toute façon, hein, et qui lui était contre la guerre, enfin bon, contre la guerre, contre le Mexique, enfin bon, contre plein de trucs et tout. Alors il y a, ce qui est bien, c'est que Zinn cite carrément un des extraits de discours. Et là, on se rend compte que, ben, effectivement, bon, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir non plus, mais que, ben, on peut revisiter de cette manière, eh bien, pas mal d'idées reçues comme ça, qu'on a sur les États-Unis, qu'on a sur ce que on veut nous faire croire sur l'histoire des États-Unis, l'histoire glorieuse des États-Unis, en fait, qui n'est pas si glorieuse que ça. Bref, un bouquin qu'il faut avoir, hein, qu'il faut avoir lu de toute façon, quoi, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe aux États-Unis et pour essayer de comprendre quelles sont les valeurs, quels sont les repères, hein, qu'utilisent les ricains. Attention, faut pas être dupe non plus, et ça Zinn le dit bien dans ce livre, hein, il fait bien la part des choses entre ce qu'il essaye d'expliquer par rapport à cette histoire des États-Unis et l'histoire qui est enseignée dans les écoles aux États-Unis, qui n'est pas du tout la même, où on passe sous silence ou au détour d'une phrase simplement certains épisodes qui sont marquants des États-Unis comme le génocide des Indiens et d'autres choses comme ça. Et là c'est chiffres à l'appui, hein, et des chiffres qui ont été revus, qui ont été recoupés par différentes sources qui permettent d'être assez affirmatifs quant à ce qui s'est vraiment passé, hein, au niveau du génocide, au niveau de l'esclavage, et au niveau de toutes ces choses-là qui font un petit peu tâche, on va dire, et qui continuent encore d'embrouiller pas mal de gens actuellement, que ce soit aux États-Unis ou même un petit peu ailleurs. Bref, c'est donc une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours de Howard Zinn, paru aux éditions Mémoire Sociale chez Agon, disponible dans toutes les bonnes crèmeries comme d'habitude.
Ouais. Et 22 minutes, hein. Non, pardon, j'ai dit une erreur. 27. toutes les références et tout ça, et c'est un... Enfin, voilà, quoi. Vous avez compris que c'était vraiment un bouquin de référence là-dessus. Aussi sur le débat sur les raisons politiques dont les programmes éducatifs sont régulièrement changés, etc. C'est extrêmement intéressant. Et on se dit qu'à côté, les petites manipulations qu'on dit qu'en France, on manipule d'une certaine manière les programmes, etc. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez pas imaginer la différence.
Ouais, ouais. Je vais juste citer une page de la Constitution.
Hein. Vas-y. Alors parce que bon bah ok, on connaît surtout les premiers trucs qui sont connus, qui sont cités par cœur par les élèves dans toutes les écoles, hein, y a pas de problème. Mais bon, ils soulignent que le fameux peuple dont il est question dans la Constitution, nous le peuple, we people of United States, expression dont nous sommes redevables au très riche gouverneur Maurice, ne comprend ni les Indiens, ni les Noirs, ni les femmes, ni même les serviteurs sous contrat. En fait, il y avait plus de serviteurs sous contrat que jamais après la Révolution. Celle-ci ne fit rien pour mettre fin et bien peu pour adoucir la servitude des Blancs. Bref, et plein d'autres choses comme ça.
De suite, voilà.
Oui, voilà, c'est une autre perspective tout, d'un seul coup. Là, on se dit, ah bah ouais, ah d'accord, ok.
Tricky, number Wonder Woman. Oui, je sais, c'est aussi pour ma cops. C'est le Super Week-end numéro 299 sur Radio FMR. Il est 13h05. She's a malicious ass, so delicious, superstitious, superstitious, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman. You just rewind, we'll just be fine, we'll just be fine, you just be mine. You just rewind, you just be fine, you just be mine, you just be mine. Number Wonder Woman, extrait de l'album Blowback. Et si je te dis du sport, que bientôt nous allons savoir qui est l'animateur de télé qui est un petit métrosexuel à chemise, Freddy Perry, bottine, Polly Smith et co-stars The Couples, embauché au départ pour faire bander les gays du marais, mais qui au final fait mouiller les vieilles du vésiné. Tu vas me dire, oh non.
Oui, si, si.
Tu vois de quoi je cause.
Ah oui, je crois. Alors, c'est une émission qui a lieu chaque année et qui avait pas lieu d'ailleurs avant Noël, il me semble. C'était
en février, il me semble.
Ouais, il me semble que c'était un peu plus tard. Hein. Enfin, un peu plus tard par rapport à maintenant, mais enfin bon, c'était...
Non, en février, c'était pour le cinéma.
Oui.
Et puis voilà. Ensuite, ils l'ont décalé en mai pour être raccord avec Cannes. Et oui, en général, c'était en octobre.
C'était plutôt en octobre. Ouais, d'ailleurs, la toute première qui a eu lieu, ben, c'était,
pas retransmise à la télé.
Si, c'était retransmis à la télé. Si, hein. Si.
Non, les premières, non.
Ah bah si, je l'ai vu la première, c'est pour ça.
Ah bon, bah ok, je me suis planté, je t'ai persuadé que non.
Dans un anonymat complet, hein, il faut bien le reconnaître.
Pourtant, il y avait quand même l'un des fondateurs des infos du monde.
Ah ouais.
Eh oui. On l'a pas oublié, lui. Bref, tout ça pour dire, parce que ça fait long l'intro, c'est les Gérards du cinéma.
Non, de la télé.
De la télévision, pardon, excuse-moi.
Voilà, parce qu'il y a eu la déclinaison cinéma après. Hein, au départ, c'était les Gérards de la télé. Hein, c'est-à-dire, bon, bah, une espèce de séance qui n'est pas d'auto-congratulation sur « oui, on est les plus beaux, mais sans mon équipe, je ne serais rien ». Mais je remercie la chaîne qui me fait travailler et qui me paye très cher d'ailleurs. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. C'était une cérémonie un petit peu décalée, on va dire. Pas mal de dérision, pas mal de sarcasme, pas mal de, on va dire, de second degré aussi, quoi. Très intéressant. Bon, je commence à décrocher un petit peu quand même parce que trop, c'est trop. C'est vrai que la déclinaison cinéma, moi, bon, ok, bon, ben, c'est marrant, hein. C'est, on applique une formule, quoi. Mais quand c'est un petit peu trop excessif. Pas dans le propos, mais au niveau du nombre, je me dis bon, ok, quoi, ça commence à être un petit peu usé.
Ils ont fait genre de la politique en mai dernier, mais voilà. Là, le problème, c'est que c'était le flop garanti intégral, puisque là, on savait que personne n'oserait se mouiller de se présenter à quoi que ce soit, et c'était plus de la descente en... Ouais, non, mais il y a de la descente en règle aussi dans les autres Gérards, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, on était sûr d'une chose, c'est que Ariel Dombal ne serait présente dans strictement aucune catégorie, ce qui était bien dommage. Voilà, donc les Gérards de la télévision, c'est le 20 sur Paris Première.
Ouais, mardi prochain, ouais.
Je ne sais pas si c'est en clair, je ne crois pas.
Bah si, Paris Première, c'est en clair, hein. Donc,
voilà, la dernière fois, je crois pas qu'il l'avait fait.
Non, mais l'avantage, c'est que c'est en prime time.
Oui, ce sera pas en deuxième partie de soirée.
Deuxième partie de soirée, donc, c'est déjà une bonne chose, ça. Alors, bon, ce qu'on pourrait également reprocher, on va d'abord parler des côtés négatifs, hein, enfin, en ce qui me concerne, du moins, quoi. Hein, c'est un petit peu le public qui est béni, oui, et tout, qui est tout acquis à la cause. De toute façon, on se demande s'ils ont pas été castés. Hein, il ressemble d'ailleurs curieusement au public du Grand Journal, tu vois, style ah ouais, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, oui, vous êtes les meilleurs, il y a pas de problème.
Attends, le public, c'est les professionnels qui sont là, pas mal de journalistes puisque c'est les journalistes de la presse écrite, hein,
oh, mais pas que hein,
quand même. Et de radio qui sont présents et qui votent d'ailleurs, hein, pour les Gérards. Bref, ça y renvoie d'une manière plutôt sèche. C'est sur Paris Première et comment dire, dès la première catégorie, ça envoie du bois. Enfin, les catégories, je les ai rerangées, en fait, sur la bonne place. D'ailleurs, tu peux me le faire avec la grosse voix, la première catégorie.
Le Gérard du chômeur qui vient pointer à Paris Première plutôt qu'à Pôle emploi.
Parce que c'est vrai que Guillaume Durand, Pierre Lescure, Philippe Vandel, Éric Zemmour, Éric Nolot, ils sont sur Paris Première, mais...
Tristan Bannon.
Ouais, c'est tous ceux qu'on n'a pas voulu ailleurs, tu vois. Et même la chaîne Hot est régulièrement assaisonnée, et ça y envoie d'ailleurs plutôt sec. Je te laisse pour la suite. Si t'as envie, je te fais les imitations.
Le Gérard de l'invité Jukebox, dans lequel t'as juste... à mettre une pièce pour qu'il te rejoue la même chanson.
Genre Jean-Pierre Coff pour... Mais enfin les enfants, mais c'est beau comme tous des cochons qui font l'amour, c'est naturel, c'est merveilleux, des porcs qui baisent. Ou Igor et Grishka Bogdanov pour... On nous demande toujours quel âge on a, mais c'est pas l'important. L'important, c'est cosmique. Nous, aujourd'hui, on a l'âge des étoiles. Christophe Andelat pour... Non mais vous ne connaissez rien à mon disque, c'est parce que vous ne connaissez rien à la musique. Mais bon, je m'en fiche, tous les artistes ont vécu ça, les Brel, Brassens, les Ferré et maintenant moi. Mais en France, on adore mettre des étiquettes, puisque c'est comme ça, je me casse. Fabrice Lucchini pour... Quand j'étais tout gamin et que je me tirais sur la tige, mais bien sûr que je me tirais sur la tige, mais pourquoi vous riez? Ou encore Geneviève de Fontenay, je vais avoir du mal là, pour « Oh, mais alors cette fille qu'elle est d'un vulgaire, mais regardez-moi ses photos, je veux pas être vulgaire, mais elle se touche la chatte devant tout le monde, c'est ça le bon goût ?» Les textes qu'ils utilisent hein, là-dessus, ça y va sec. Il y en a d'autres, je vais pas tous les faire, hein, heureusement. C'est les autres catégories, on reprendra pour la dernière.
Ouais. Je peux te faire aussi le Gérard de l'animateur qui a trop de dents et elles sont blanches. Entre autres, il y a également le Gérard de l'émission qui a un nom de pièce de boulevard avec Marthe Villalonga et Bernard Menez en slip caché dans un placard.
C'est pas le slip qui est caché dans le placard. Il y a également le Gérard de l'émission qui a fait un tel crack d'audience qu'on a eu du bol que Standard & Poor's ne dégrade pas la note de la France dans la foulée.
Et ma petite préférée, la petite dernière. Alors, non, là il faut la faire manière pub. Gérard de l'astuce 100% malin, 100% discount pour remplir votre chaîne TNT à prix futé. Piquer des vidéos sur le net, Y8, en faire des zappings, NT1, rediffuser les Simpsons de 1985, W9, diffuser les téléachats américains, TMC, passer que des clips de R&B toute la journée, Direct Star, filmer des chansonniers qui rient encore en imitant Georges Marché et Raymond Barre, Paris Première. C'est qui Marché, Barre? Bref, tout cela, ce sera dans une scène ambiance. On se demande encore s'il y aura encore des gens qui vont récupérer leur parpaing bombé manière dorée pour y aller. Il y en a quand même eu qui y sont allés. Valérie Davido a été la première à aller chercher son parpaing. Il y en a eu d'autres par la suite qui y sont allés.
On l'a aussi, est allé. Hein.
Oui, c'est vrai. Il y a eu aussi, mince, là, le Black, là, qui était le comparse de... Ah! Des premiers des matinées sur la une, la grosse Starlouze.
Oui.
Je le dis d'une
Vincent
manière
McDoom. Non, pas,
non, pas lui,
l'autre
non, je le dis d'une manière affectueuse en plus, donc
oui,
justement il revendique lourdement ça.
Donc, bah, d'ailleurs ils ont fait un espèce de road movie par la suite avec Vincent McDoom, tous les deux quoi, qui était passé sur NT1 ou
voilà, ouais,
ça, quoi,
ça enfin bon, ça a été pitoyable. Ce sera un moment, je veux dire, que l'on va regarder en rigolant comme des tarés. Ça vaut le coup parce que tu vois les rires dans la salle et tu vois les mecs, les producteurs, etc. ou les gens que tu sais qu'ils font les sidekicks sur les plateaux télé. Et puis au moment où on parle de l'émission où ils sont justement là, à ce moment-là, ils rient, ils sont un peu gênés. C'est vraiment très très fun. C'est un moment de grand n'importe quoi. Mais il y a aussi des programmes pour enfants.
Pour enfants, mais pas que, hein, franchement, quoi, parce que là, comme d'habitude, comme pratiquement chaque année, je vous ai fait une sélection de films de Noël, mais également des films avec des bêtes dedans, mais pas que. Il y a pas mal de films de Noël, en fait, hein, de toute façon, hein, ça s'y prête bien, de toute façon. Et dans ces films, eh bien, la plupart sont des téléfilms, quoi, donc rien à dire, hein, comme d'habitude, mais... On remarque que des fois, eh bien, on retrouve des grands noms, hein, qui, se disent, ok, quoi, faut bien assurer le beefsteak quotidien, de toute façon, ça mange pas de pain, y a pas de problème, et que des fois, ben, même des réalisateurs qu'on va dire confirmés, eh bien, se prêtent au jeu de se farcir un petit téléfilm de Noël. C'est plus vrai du côté des ricains, hein, de toute façon, parce que bon, il y a une tradition, hein, de toute façon, déjà, il y a une tradition.
On sait que Roberto Rodriguez en a fait quelques-uns pour déconner, et ils sont tout à fait honorables.
Non, mais il y a une tradition, de toute façon, des chansons de Noël, des disques de Noël, quoi, du
outre-Atlantique. Même des films de Noël, puisque dans les années 30, 40, 50, où l'industrie hollywoodienne tournait à fond sur les films qui ne tenaient que même pas 3 semaines en salle, hein, tellement qu'on en sortait, ils sortaient des films de Noël, et c'est vrai que tous les ans à la télé américaine, à ce moment-là, t'as tous ces films avec la petite neige, le petit truc de miel, etc. On les ressort, on les fout en paquet, restaurés en HD, colorisés, stéréoifiés et tout le reste.
Bah ouais. Et puis quand t'as les grandes chaînes genre M6, TF1 et tout ça qui viennent faire leur petit marché pour acheter du CSI, pour acheter la super grosse production série américaine qui va casser la baraque et tout... En même temps, on leur fourgue lot de films de Noël. Allez, puis vous diffuserez ça. Vous diffuserez ça sur vos chaînes affiliées, il n'y a pas de problème. Ça le fera quand même. Alors, justement, par les TF1, là, bien, dès cet après-midi. Alors, la plupart, en plus, ça vont être diffusés. Là, c'est l'offensive pendant toute cette semaine. Hein, ça va être à partir de 11h du matin.
Wouhou!
Sur certaines chaînes. Et des après-midi pratiquement entiers remplis de téléfilms de Noël, hein. Donc j'ai quand même fait une sélection, hein. C'est pas l'ensemble des films qu'il va y avoir, parce qu'il y en a vraiment trop, et là on en aurait jusqu'à 3h de l'après-midi, quoi. Donc quand même pas. Alors cet après-midi sur TF1 à 16h10, Coup de foudre à Noël de John Stimson, avec Elizabeth Rum et Brendan Fair. Elizabeth Rum, c'est la blonde qu'on voit qui est substitut du procureur dans Law and Order à un certain moment. Et Brendan Fair, ben, on l'a vu dans pas mal de choses. Dans Roswell, il a été révélé dans Roswell. Et on l'a vu également dans une autre série avec des vampires. Je sais pas si tu te souviens là. un truc avec Minuit ou je sais pas quoi. Enfin bon, mais un truc pas trop mal en plus quoi. Donc ça c'est sur TF1 cet après-midi à 16h10. Cet après-midi également et très bientôt à 14h20 sur France 4, Le Compagnon du Grand Nord. Alors là c'est un film de bête quoi. C'est de Peter Swatek avec Rutger Hauer qui joue le rôle d'un vieil aventurier solitaire.
C'est lui qui fait la bête ?
Non, c'est lui qui va recueillir un chien de traîneau qui a été volé et qui a réussi à s'échapper.
Oh, c'est gentil.
Ouais, c'est une belle histoire hein, de toute façon quoi. Et il y a Rugby quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Ce soir sur Sci-Fi ou Sci-Fi si vous parlez français, à 20h45, Stuart Little suivi à 22h15 de Stuart Little 2. Ouais, il le passe dans l'ordre, hein, c'est ça qui est bien quoi. Sur TF6 à 20h45, Je hais le Père Noël de Peter Werner avec Nigel Hawthorne, Whoopi Goldberg et Vincent Garber. Alors celui-là il est pas mal. Il est sympa, je l'ai vu l'année dernière. En fait, c'est l'histoire de Whoopi Goldberg qui est directrice d'une chaîne de magasins et qui doit embaucher un Père Noël pour faire l'animation dans ses centres commerciaux. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle engage le vrai Père Noël.
C'est mignon.
Alors moi, c'est pas mal.
Le Père Noël aussi est un prolétarien.
Voilà. Et puis bon, et en fait, bon bah ok, il y a quand même un bon casting, on va dire. Hein, Nigel Hawthorne, Whoopi Goldberg, Vincent Garber, tu sais, le méchant dans Alias. Quoi. Le patron de Alias quoi, donc bon ça va quoi, c'est pas mal. Demain sur TF1 à 20h50, ça sent les vacances scolaires. Madagascar 2 demain soir sur TF1. Il y a également sur France 2 à 20h45 Le Père Noël est une ordure, ça c'est le film original de Jean-Marie Poiré avec toute la bande
adapté
du Splendide,
de la pièce, hein.
Adapté de la pièce donc. Et sur France 3, et là c'est pas mal, ça peut être le truc le plus intéressant, c'est un film de bête. C'est, on va dire, une énième adaptation du roman d'Herman Melville, Moby Dick, mais c'est une adaptation très récente de Michael Barker avec William Hurt dans le rôle du capitaine Ahab. On a également Ethan Hawke, Eddie Marsan, l'acteur anglais qui jouait le rôle de Lestrade dans le Sherlock Holmes de
Granada.
Non, le Sherlock Holmes, le film avec Robert Downey.
Ah oui, pardon, oui, celui qui est, ben il y a une suite qui va arriver d'ailleurs.
Oui, voilà. Donc casting assez béton et puis bon, ça a l'air assez intéressant quand même. Donc c'est demain soir sur France 3 à 20h35, Moby Dick, c'est inédit à la télé. Sur TMC demain après-midi à 14h40, La Voleuse de Noël de David Winkler avec Shannen Doherty. Eh ouais, elle est là, elle a joué dans les films de Noël. Lundi sur TF1 à 15h15, La Ville de Noël de Karen Arthur avec Candace Cameron Bowe et Tom Arnold. Tom Arnold joue bien entendu le rôle du Père Noël et Candace Cameron Bure, elle joue le rôle de la fille du Père Noël qui rend visite à son papa et qui se rend compte que dans la ville où se passe où tout se passe, c'est-à-dire on fabrique les cadeaux et tout ça, c'est un petit peu le why quoi, tu vois quoi. Donc il faut remettre un petit peu d'ordre parce que rien ne va plus comme avant. Est-ce que les cadeaux vont pouvoir être livrés à temps? Sur M6, lundi toujours à 11h du matin, Un mariage pour Noël de Henry Frost en 2007 avec Gail O'Grady et Greg German. Alors là, c'est la période de Noël qui sert d'alibi en fait pour une histoire genre sitcom quoi, où une nana complètement désespérée doit absolument trouver quelqu'un avec qui se marier quoi. Enfin bon, tu vois quoi, c'est un petit peu le genre quoi. M6 qui propose également lundi à 20h50 La Belle et la Bête. Le Disney de 1991, donc pas mal, assez sympathique quand même. Sur TMC, lundi à 11h35, Joyeux Noël, Papa, Maman, de Fred Olen Ray avec Cynthia Gibb. Alors, c'est assez marrant parce que Fred Olen Ray, c'est plutôt un réalisateur, on va dire, de films de série B. On va dire genre des trucs rentrent dedans, voire des fois des films d'horreur quoi. Donc le voir faire un film de Noël quoi, c'est assez
promis,
bizarre quand même.
Promis, je serai sage.
Et lundi également sur Planète Plus, un film avec que des bêtes dedans, que des bêtes. C'est Microcosmos, le peuple
oui,
de l'herbe.
Oui, parce que sur Planète Plus, je me doutais, c'était pas...
Ouais. Mardi, sur TF1, 15h55, le jackpot de Noël de James Orr en 2007 avec Patrick Swayze. Eh oui. Le regretté Patrick Swayze. Sur M6, alors là, une flopée, il y en a trois carrément. À 11h, L'amour au pied du sapin, une coproduction allemande et autrichienne de Peter Sumann avec Errol Sander et Valérie Niehaus. Ensuite, à 13h45, le costume du Père Noël de Robert Vaughn. Hein, ça te dit quelque chose? Avec Kevin Sorbo.
Tu veux dire que c'est réalisé par le, par l'amour du risque?
Ouais, non, tu confonds avec Robert Wagner.
Non, Vaughn, c'est celui qui était
l'homme
dans
de l'Uncle.
L'Uncle, oui.
L'homme de l'Uncle, voilà. Avec Kevin Sorbo, Hercule, d'accord. Andromeda. Incroyable. Et à 15h40, toujours sur M6, hein, après Kevin Sorbo, Sauver le Père Noël de Yelena Lanskaya avec Scott Graham et Ali Lyons. Sur TMC, toujours lundi à 13h25, Allô Maman, ici Noël. Ça, c'est le classique, c'est dans la série Allô Maman, ici Bébé. Mmh. C'est le troisième, hein, parce qu'il y a eu Allô Maman, ici Bébé, et puis ensuite, il y a eu le deux, je sais plus comment il s'appelle. Et ça, c'est le 3, en fait, toujours avec les deux mêmes, hein, John Travolta et Kirstie Alley, et filmé par Tom Ropelowski en 93. Sur NT1, lundi à 14h40, un Noël de folie d'Eleanor Lindo avec Andrea Roth. Et à 20h45, encore le même titre, un Noël de folie. Là, un film français de José Pinheiro. Alors, José Pinheiro qui est tombé un petit peu bas, on va dire, hein, parce que lui, c'est quand même un réalisateur qui a commencé très jeune par faire des adaptations de polar pour Alain Delon. C'était le Yes Man de Alain Delon.
Quand
Alain
Delon, dans les années 70, les policiers.
Ouais,
tout
voilà,
ça,
les polars, enfin des quand il adaptait Manchette ou des trucs comme ça, ouais. Delon, il disait ok, toi tu filmes pour moi, quoi. Mais c'est moi le patron, quoi. Mais c'est moi l'acteur principal aussi. Et là, bon, ok, un Noël de folie donc avec Benjamin Hutin, Alexandra Van Der Noot et Bigard.
Oh non.
Yes.
Oh là là.
Par contre, on pourrait peut-être, alors là, j'en suis à mardi, hein, se jeter sur comédie où il y a une comédie qui a l'air assez sympathique qui s'appelle Christmas Story de Bob Clark avec Peter Billingsley, l'histoire d'un petit gamin qui, pour son Noël, il a décidé, ça se passe dans le sud des États-Unis, et le petit gamin, il a décidé d'avoir un pistolet qui est pratiquement aussi vrai que les vrais. Et seulement ses parents ils veulent pas parce qu'ils disent que ça va être trop dangereux, quoi. Donc voilà, quel est le pitch du film? Ça peut être sympathique.
Un film sponsorisé par la National Rifle Association.
Voilà. Mercredi sur France 2 à 14h45, le Pôle Express de Bob Zemeckis.
Film en 3D avec comme acteur motion performance.
Motion capture, oui.
Oui.
Sur France 3 à 9h45, toujours mercredi. L'étrange Noël de Monsieur Jack, le film de Henri Zélig, le film d'animation de Henri Zélig. Sur M6 à 13h45, mercredi, La guerre des guirlandes de Harvey Frost, avec Daniel Stern et Matt Frewer. Attention, Matt Frewer qui est Sherlock Holmes dans la version canadienne de la série Sherlock Holmes. À 21h, 22h40, toujours sur M6, La Mère Noël avec Christine Neubauer. Et sur RTL9, à 15h55, mercredi, Blizzard, le renne magique du Père Noël de LeVar Burton. LeVar Burton qui réalise un film de Noël. LeVar Burton, c'est Data dans
Star Trek, The Next Generation.
Voilà.
Oh là là.
Avec Zoé Warner et Christopher Plummer, quoi. Pour te dire.
Sans
hein, quand
le maquillage cette fois-ci.
Toujours mercredi sur NT1 à 14h35, le mensonge de Noël de Jerry London avec Tim Matson et Melissa Gilbert. Jeudi sur M6 à 13h45, Noël sans cadeau de Lisa Mulcahy. Alors ça c'est un film inédit avec Maria Sokolov et Mark Webber. Alors là ça peut être peut-être intéressant parce que ça raconte l'histoire d'une famille qui est jetée dehors à la rue juste avant les périodes de Noël et tout, à savoir comment ils vont faire. Pour entretenir la magie de Noël, ça peut-être le faire quand même.
Ah, ils vont vendre des petites allumettes et puis ils les allumeront le soir.
Ouais. Et ça cramera partout. À 15h20, toujours le jeudi sur M6, après ce Noël sans cadeau, un fiancé pour Noël, même esprit que l'autre, hein, de Kevin Connor avec Kelly Williams, Patrick Muldoon et Charles Durning, quand même. Et sur TPS Star, jeudi à 20h40, Joyeux Noël de Christian Carion. Alors là, Attention, c'est pas un film drôle, c'est pas une glorieuse de Noël, c'est le film qui était sorti en 2005 et qui raconte l'histoire de la trêve de Noël pendant la Première Guerre mondiale entre les soldats français et les soldats allemands qui le jour de Noël, ils disent OK, on fait la fête ensemble.
Et ils font un match de foot
avec entre autres Ben Offerman, Diane Kruger, Guillaume Canet, Danny Boone, enfin bon, il y a un casting aussi qui est assez intéressant. Ça c'est sur TPS Star jeudi prochain à 20h40. Sur NT1, toujours jeudi prochain à 14h50. Impossible n'est pas Noël de Georges Mendec avec Gabriela Corteris et Steve Bachik. Vendredi, on termine donc avec cette semaine de Noël sur TF1 à 17h25. La fille du Père Noël avec Jenny McCarthy. Yes, super, yes, yes. Un film de Ron Underwood quand même quoi. Sur France 2, vendredi à 20h35, à la Maison de Noël, ça c'est un téléfilm inédit donc de Christian Meret-Palmer avec Virginie Efira, Abdel Ben-Sherif et Didier Flamand. Okay, ah ouais, ça va faire mal. Et sur M6, toujours vendredi prochain, 15h50, Les Oubliés de Noël de Josh Bradshaw avec Lauren Holly et Rick Roberts. Alors, je sais pas si c'est Eric Roberts, mais là, il y a marqué Rick Roberts. Donc,
faute de frappe, ça arrive.
Non, parce que c'est Rick avec CK. Donc, a priori, c'est pas une faute de frappe. Hein, donc, sur TPS Star à 20h40, Le Drôle de Noël de Scrooge. Ça, c'est encore le Zemeckis le plus récent, en fait. Hein, toujours motion capture et tout, quoi. Donc, et ça, c'est tiré des vieux contes de Noël. Hein, donc, ok, hein, c'est.
C'est Anderson, il me semble. C'est le texte d'Anderson.
Non, c'est de. Comment il s'appelle? C'est le type qui a fait également Le Grinch.
Ah, oh. Oui. Moi, ouais, je suis incapable de te le dire, là.
Alors, ensuite, sur TMC, vendredi prochain à 20h45, Joyeux Noël Madagascar. Madagascar spécial Noël. Donc qui peut être sympathique. Et W9, c'est marrant parce qu'on en parlait avant. Eh bien, c'est une soirée Simpson avec que des épisodes de Noël. Et quand tu sais qu'ils ont fait une
vingtaine
de saisons, donc ça en fait des épisodes. Là, il y en a 6 ou 7 seulement, quoi. Donc dans la soirée.
Oui, il faut en mettre pour les deux autres soirs. Hein.
Voilà. Et je termine avec ceux qui sont peut-être les deux meilleurs de la semaine, quand même, sur Ciné Plus Famille, vendredi prochain à 21h, Le Sapin à les Boules, de Jeremiah Chechnik avec Chevy Chase, Juliette Lewis et Beverly D'Angelo.
Oh non, ils ont
et sur la chaîne Polar. Eh oui, sur la chaîne Polar à 21h. Alors là ça n'a rien de drôle hein. C'est un bon film, un très bon film de Christian Jacques en 41, L'assassinat du Père Noël avec Harry Bore, Raymond Rouleau et Robert Le Vigan.
Nom de Dieu, j'ai lancé l'autre disque, mais il n'y avait même plus besoin. Et oui, puisque c'est la fin de cette émission numéro 299 du supplément week-end sur FMR 89.1 MHz. Nous sommes très fiers de pouvoir vous dire qu'on en est venu à bout de cette 299, mais surtout très heureux de vous souhaiter quand même de joyeux préparatifs. Je dis ça, en fait, c'est juste le temps que du sport prépare le résumé. Parce que oui, il y a des gens qui arrivent comme ça et qui écoutent la radio en plein milieu, soit parce qu'ils font les courses, soit parce que ils sont en voiture sur les routes vers les Pyrénées, soit parce qu'ils nous écoutent en podcast et ils s'amusent à zapper, ou ils nous écoutent en stream du sport. As-tu songé à eux et fait un résumé?
Eh bien, vous avez loupé une introduction de Xavier avec la main sur le front. Vous avez loupé également une sélection élyséenne de cadeaux de Noël. Vous avez loupé, ça il fallait être dans le studio, un rond de fumée qui se transforme en cœur. Vous avez loupé...
C'est pas très radiophonique.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Des nécros de auteur de comics, une bible de l'histoire des États-Unis et plein de films de Noël.
13h32, vous avez tout fait, vous avez loupé tout ça, non d'une houppelande, mais heureusement vous pouvez, grâce à la diffusion différée, nous réécouter en intégralité cette émission, et ainsi que les précédentes, retrouver nos chroniques écrites, jouer dans nos archives, voire vous proposer pour la 300e, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr. supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM sur cette fréquence et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, et oui, c'est la 300e Spartan! Et ce sera le 7 janvier. En attendant, peut-être qu'il y aura deux éditions dues en attendant le supplément week-end, donc du programme que l'on fait en alternatif. quand on n'a pas trop envie et tout ça. Enfin, en tout cas, on se donne rendez-vous l'année prochaine, même heure, même fréquence, samedi 7. En attendant, bonne fête. Amusez-vous bien et soignez vos proches. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mille merci. Et donc, heureux d'être sur FMR. 30 ans ferme. Ciao, bye bye.